Et si tu peux, José, juste fermer la porte, tout le monde, rentrez, asseyez-vous. Je vous invite juste à fermer les yeux, j'aimerais prier, si vous voulez bien, en démarrant. Alléluia, merci Seigneur pour ta paix. Merci pour qui tu es. Et Saint-Esprit, je te prie, est-ce que tu pourrais venir toucher nos cœurs ce matin comme si c'était la première fois. On vient devant toi, on jette nos couronnes. On se met totalement à tes pieds et je te prierai d'ouvrir nos cœurs. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs et à être à l'écoute de ce que Dieu veut vous dire ce matin. Amen. Si je devais donner un titre à mon message, la prochaine diapo, c'est « Quel est le vrai sens de Noël ?» Il y a peut-être des gens, vous êtes ici, vous venez à l'église pour la première fois et parfois il y a, je dirais, tout le tourbillon des fêtes, l'achat, des cadeaux, les amis et tout ce qui se passe tout autour. Et en fait, dans cette frénésie complètement dingue, il est possible de passer à côté du vrai sens de Noël. Et j'aimerais ce matin voir avec vous, et j'aimerais qu'on plonge ensemble dans la Bible, à ce récit il y a 2024 ans, dans le pays d'Israël qui était à l'époque était occupé par les Romains, qui d'ailleurs, quand vous lisez l'histoire de la Bible, ils faisaient vivre un cauchemar au peuple israélite en leur imposant une oppression sur le pays et en se référant à des vieilles prophéties, notamment du prophète Isaïe. Il avait été question qu'il allait naître du milieu d'Israël à un sauveur qui allait complètement délivrer le monde. Et c'est dans ce contexte-là que prend le récit de la nativité. Et on va le lire ensemble. Si le diapo veut bien marcher, c'est bon ? Il va y arriver ? Est-ce que des gens... c'est bon, tu peux l'envoyer à l'écran ? Et du coup, pendant qu'elle se prépare à l'écran, en fait, ce qui était dingue, c'est bon, yes. Du coup, on le lit ensemble. Le récit de la nativité. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie, la mère de Jésus, devait accoucher. Elle mit au monde son premier-né. Parce que Marie, pour les petites histoires, a eu d'autres enfants après. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place dans la pièce réservée aux voyageurs. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Et l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une grande nouvelle pour tout le peuple. Il sera un sujet de grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez, vous le trouverez. Vous trouvez un nouveau-né emmailloté dans des langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, ils ont comme une capture du ciel. À côté de l'ange, une multitude d'anges et toute l'armée céleste chantaient les louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux qui l'aiment. » C'est ça le récit de la nativité. C'est lorsque Jésus est venu, voici ce qui a pris place. Et juste la prochaine diapo, c'est Marie devait accoucher, et c'est là où je voulais souligner quelque chose de particulier. Elle devait accoucher au milieu, elle mit au monde un fils, ce premier-né, et elle le coucha dans un endroit, dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'endroit où était destiné aux voyageurs. Et en fait, la question, alors que je relisais ce texte, mais je me dis, mais pourquoi, comment se fait-il que Dieu, le roi de l'univers, a choisi une mangeoire pour faire naître son fils ? Vous n'avez jamais posé la question ? Comment est-ce que c'est possible ? En fait, quand vous lisez le texte, et je vous donne un petit peu de contexte dans où prend cette histoire, dans le contexte environnant, il y a eu à Bethléem, donc qui est la ville où cette histoire prend place, il y avait un empereur qui s'appelait Auguste, qui a décidé à ce moment-là de faire un recensement, une sorte de, un recensement collectif, c'était pas le service des impôts, mais presque, où tout le monde devait aller dans sa ville de naissance se faire enregistrer. d'où tu viens. Et parce que c'était un ordre donné par l'empereur, tout Bethléem, là où était Jésus, là où est né Jésus, était bondé. Il y avait des familles, des voyageurs, il y avait une cohue, il y avait tous afflux à Bethléem. Et en fait, il n'y a plus aucune disponibilité nulle part. Tous les hôtels sont pris, et à chaque fois, si ça a été moi aujourd'hui, tu chercherais sur Booking, il n'y a plus aucune place à aucun endroit, c'est pas possible. Et en fait, Joseph a sa femme qui est enceinte jusqu'au cou. Il cherche un hôtel, une auberge, puis une deuxième, puis une troisième, et il y a un moment donné, je pense qu'il commence vraiment à paniquer, en disant, mais c'est pas possible, à moins qu'on trouve une place. Ma femme va accoucher dehors, c'est pas possible. Un endroit après l'autre, et à partout la même réponse, et la même, il n'y a plus de place. Et en fait, les auberges, c'est pas comme nous aujourd'hui, tu sais, l'hôtel Hilton où tu as 400 couchages. Non, les auberges à l'époque, c'est simplement une petite maison qu'on ouvre avec une pièce un peu rudimentaire, puis on met des nattes par terre, puis les gens dorment un peu au même endroit, à la même place, mais là, ils pouvaient plus. Et il y a un endroit. Le gars, je pense qu'il a dû voir Marie avec enceinte comme ça. Il a dit, écoutez monsieur, je suis un peu pris de compassion, j'ai pas grand chose à vous proposer, mais il y a un endroit, peut-être c'est là, c'est un espèce de local à vélo si je peux dire, mais là c'était une auberge où il y a des animaux, il y a des vaches, et il a dit, bah, écoutez, peut-être que votre dame elle pourrait être là, regardez, je mets un peu de foin, je vous mets un peu de lumière, et peut-être qu'elle pourrait être ici. Et finalement ils vont se retrouver là, avec un peu de répit, et loin de l'agitation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus de place nulle part, ni dans l'hôtellerie. Et cet enfant qu'est Jésus vient nous offrir une place dans son royaume. C'était fou le contraste, c'est-à-dire que le monde est tellement préoccupé, on court à droite, à gauche, et on dit « j'ai plus de place dans mon cœur, dans ma vie », alors que lorsque Jésus vient, il te dit, moi, je t'ouvre la porte du ciel et je m'en vais te préparer une place pour toi. Quel contraste. C'est une image de notre monde aujourd'hui. Il y a des festivités, il y a les tourbillons, il y a les achats. Et dans tout cela, il y a un sauveur. Il y a cette voix qui se rend à vous aujourd'hui. Dieu vient à la rencontre de l'humanité et il désire naître dans ton cœur. Il désire prendre une place. Quand le monde dit, il n'y a plus de place pour ma vie, pour ce Jésus, j'aimerais te poser une question ce matin. Est-ce que toi, tu es prêt à ouvrir ton cœur et à donner une place pour Jésus? Et du coup, si je vais un peu plus loin, je dis, ok, il y a peut-être plus de place. Les amis, je vois des gens, il y a 4 places devant, là je vous vois tous debout. Il y a encore 4-5 places qui sont juste ici, Fafa, juste ici à côté de Sandrine. Je vous vois tous debout là-bas, j'ai mal pour vous. Et je disais, ok, admettons, il n'y a plus de place, c'est ok. Mais je pose une question, Dieu, le sauveur du monde, c'est lui qui a créé le ciel, la terre, est-ce qu'il était trop débordé pour trouver une place pour son fils? Je veux dire, est-ce qu'il a pas eu le temps il y a eu un problème d'organisation dans le ciel? Enfin, je veux dire, mais pourquoi? Et pourquoi une mangeoire? Pourquoi un lieu, je dirais, si sobre, un lieu presque insignifiant? Et puis je me pose encore des questions, je dis, est-ce que c'était pas prévu? Est-ce qu'il y a eu une erreur dans le booking et dans la réservation? Ils n'ont pas reçu l'email. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que c'était voulu? Est-ce que Dieu voulait que ça se passe comme ça? Et la réponse, les amis, c'est que Dieu avait prévu et avait voulu que son Fils unique vienne dans un endroit insignifiant qui ne fera pas au regard humain. Et du coup, ça dit quelque chose sur Dieu. Ça dit quelque chose sur qui il est. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette semaine, il y a eu l'inauguration de Notre-Dame avec Macron. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu à la télé. L'ambassade française a délivré aux États-Unis, parce que quand Trump vient avec sa, je dirais, toute sa horde de sécurité et les journalistes, etc., l'ambassade française a délivré 1500 visas diplomatiques pour toute l'armada américaine qui est venue juste sur le déploiement. Trump. Et je regardais ça dans l'actualité, 1500 visas dont 800 sont dédiés exclusivement à la garde et à la sécurité
invités du président des États-Unis d'Amérique. 45 voitures blindées, une ambulance prête à intervenir, un véhicule de détection des brouillages de radar. Ça, c'est Trump qui débarque. Vous comprenez ? Quand Jésus est venu sur Terre, c'était pas la même chose. En fait, Jésus, et c'était le programme de Dieu, c'était de venir de telle façon, il y a un vrai signe d'humilité, le sauveur du monde, qui vient dans un endroit, je dirais petit, caché, et c'est un acte qui est porteur d'une signification profonde et riche en enseignement. La première chose, c'est qu'il est humble. Il n'est pas venu dans ce monde comme un roi puissant, conquérant. Il est venu d'une façon la plus humble, totale et possible. Il n'est pas venu pour régner sur des trônes terrestres, mais il est venu pour toucher ton cœur. Et en fait, il est venu dans un endroit qui est complètement accessible à tous, les pauvres bergers. Une mangeoire, c'est un lieu où tout le monde peut aller, que ce soit des pauvres bergers, des étrangers. Jésus est pas né dans un palais réservé à une élite, où il y a des dorures, où il y a de l'argent. Et par cette naissance dans ce lieu modeste, Dieu nous montre que le salut est offert à toute l'humanité, sans distinction de classe, sans distinction de que tu sois riche, que tu sois pauvre, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton niveau intellectuel français. Je te dis ce matin, c'est que Jésus est venu dans ce monde pour toi. Amen. Qui que tu sois, tournez, mettez un petit coup de coude à votre voisin et dis-lui, Jésus est venu pour toi aussi. Sa naissance dans un tel lieu, c'est un message tellement puissant qui renverse toutes nos valeurs humaines, tout ce qu'on s'est associé dans notre esprit, dans notre tête, à la grandeur, la richesse, le pouvoir. Dieu a choisi de manifester toute sa grandeur dans l'humanité tellement fragile d'un enfant. Et ça renverse tout ce à quoi on est habitué, même dans notre tête. Et moi, c'est vrai, je lisais le texte, mais je dis, mais quand même, t'aurais pu faire les choses différemment, t'aurais pu t'y prendre différemment. Et c'est vrai que ça renverse tous nos principes. Le Dieu de l'univers qui vient dans un endroit incognito. C'est hallucinant quand même. Moi, on aurait fait une campagne Facebook d'annonciation, on aurait fait fanfare, trompette, tambour, on aurait annoncé. Et il ne s'y prend pas de cette façon. De la même façon qu'il désire naître dans ton cœur humblement. Avec cette même, je dirais, profondeur, humilité, simplement, c'est comme ça qu'il désire se présenter à l'humanité et c'est comme ça qu'il aimerait rentrer dans ton cœur si tu le veux bien. Et mon deuxième point, c'est que sa venue, prochaine diapo, nous apporte sa paix et sa joie. On continue le texte, non loin de là. Ces bergers veillaient dans les champs, ils gardaient leurs troupeaux et durant la nuit, il y a le Seigneur qui leur apparut et la gloire de Dieu les enveloppa de lumière. Et en fait, ces bergers, ils ont été pris de peur. Le contact parfois avec le divin nous effraie. Il y a de la lumière, du son, du multimédia, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Mais l'ange les rassura, il leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une grande nouvelle ». Qui sera une source de joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né. Il est le Christ, il est le sauveur. Et après, il y a une multitude d'anges qui disent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » La venue de Jésus sur terre nous dit deux choses. Il y a de la joie, il y a de la paix. Bon, je trouvais que c'était bien, je vais le redire. Il y a de la joie, il y a de la paix. C'est la venue même de Jésus. C'est pourquoi on est rassemblés ici ce matin. C'est parce que nous célébrons la venue du Christ qui est venu nous apporter cette joie et cette paix. C'est un sauveur. Il y a peut-être des gens ici, vous dites, ouais, mais c'est un sauveur, il vient me sauver de quoi? En fait, il vient de te sauver de ta tristesse, de ce que dit la Bible parfois, de notre vaine manière de vivre. Des erreurs qu'on a commises dans notre passé, parfois de notre méchanceté, parfois même de tes traumas d'enfance, de l'abus que tu as subi, tout ce qui est négatif dans ta vie, qui t'a frappé, qui t'a bouleversé, qui a complètement fauché peut-être ton identité, toi, ta famille. Il vient sauver le monde en commençant par ta vie. Il amène cette joie. Il amène cette paix. Et s'il y a deux choses dans le monde qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de sa joie et de sa paix, quand on voit tout ce qui se passe dans l'actualité, que ce soit en Russie, en Ukraine, que ce soit en Israël, le monde est bouleversé, on a besoin de sa joie. Une joie profonde qui perdure, qui n'est pas effacée. C'est la différence, vous savez les amis, entre une joie un peu éphémère, d'une soirée avec des amis, j'ai vu un bon film, j'ai fait une croisière, j'ai fait un spectacle humoristique, j'ai vu un spectacle, et on parle pas de cette joie-là. On parle d'une joie qui est profonde, qui est entière, qui fait que ça dure. C'est une joie intérieure qui demeure, une paix. Une paix quand il y a un avenir incertain, dans tout ce qui se passe dans le contexte politique actuel, il y a une paix qui vient à l'intérieur de moi. Que quoi que je traverse, quoi que je passe, il est là. Du coup, en conclusion, Jésus nous amène tout ce que nous n'avons pas. Jésus nous offre tout ce que cœur humain ne peut pas produire naturellement. Et Jésus nous délivre par son amour de tout ce que nous ne sommes pas capables d'offrir par nous-mêmes. Et il y a des gens, peut-être vous êtes ici, vous dites, ouais, mais souvent, quand je parle de Dieu, et ça m'arrive d'interpeller des gens qui ne croient pas en Dieu, et parfois des gens qui n'ont pas la foi, et on me dit, ouais, mais finalement, la foi, c'est pour les faibles, c'est, tu sais, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent, c'est ceux qui ont besoin d'une béquille dans leur vie. J'aimerais vous dire et j'aimerais vous proposer l'idée que c'est pas tout le temps comme ça. Si tu mets la prochaine diapo, j'aimerais vous parler de Daddy Yankee. Peut-être que vous le connaissez pas, mais c'est un auteur, chanteur d'un, je l'ai découvert, mais d'un titre mondial célèbre qui s'appelle Decapiti. Ah, vous le connaissez aussi ? Despacito, 30 millions de disques vendus dans le monde, 8 milliards de vues sur YouTube. Despacito, il a une fortune estimée à 50 millions de dollars. Il n'est pas au chômage. Daddy Yankee, de son vrai nom Ramón Luis Halaya Rodríguez, a annoncé vouloir mettre fin à sa carrière. Et je le cite, si tu mets la prochaine diapo, ça a fait la une des manchettes il y a quelques temps. Il quitte la scène et voilà ce qu'il dit. Il dit, pendant longtemps, j'ai essayé de combler un vide dans ma vie que personne ne pouvait combler. J'ai essayé de trouver un sens à ma vie et parfois j'avais l'air très heureux, mais il me manquait quelque chose. J'ai réalisé que pour tout le monde, j'étais quelqu'un, mais que je n'étais rien sans lui, sans Dieu. À toutes les personnes qui m'ont suivi, suivez Jésus le Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Ce jour est pour moi le plus important de ma vie. Et ce soir, après un concert, il a annoncé ça, il a dit, je reconnais et je n'ai pas de honte de dire au monde entier que Christ vit en moi et que je vivrai par lui. C'est la fin d'un chapitre et c'est tout à nouveau qui démarre. Alléluia. Les amis, quand on rencontre Christ, c'est la fin d'un chapitre, c'est-à-dire notre ancienne vie, et c'est un nouveau qui démarre. À partir du moment où tu l'acceptes dans ton cœur, il y a une aventure qui démarre. Tourne-toi vers ton voisin et dernière fois, dis-lui, je savais que tu avais besoin d'une nouvelle aventure. Dites ça à quelqu'un. Il te manquait un peu de tribulation dans ta vie. Commencer une nouvelle... Non, pas avec une nouvelle femme. Attention, il y a quelqu'un qui... Alors je précise, une nouvelle aventure ne signifie pas pour les couples mariés avec quelqu'un d'autre, je précise. Et du coup, le vrai sens de Noël, et il y a des gens, et parfois dans le tumulte, il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on offre des cadeaux à Noël ? J'ai du mal à comprendre. En fait, pourquoi on offre des cadeaux à Noël ? La raison pour laquelle nous offrons des cadeaux, elle est très simple. C'est parce que Dieu le Père nous a offert son cadeau à l'humanité. Christ, Jésus, s'est arraché des splendeurs du ciel. Il est venu naître ici dans une mangeoire, dans un endroit où, que je dirais, personne n'aurait apprécié ou reconnu. De la même façon, il désire naître avec humilité dans ton cœur. Et aujourd'hui, on amène et on partage cet amour. Et si tu n'es s'il y a des gens, vous êtes ici, vous ne le connaissez pas, ou peut-être même des gens, vous le connaissez bien, j'aimerais vous dire, il est temps pour vous d'ouvrir le cadeau. Il est temps pour nous de découvrir une nouvelle facette de qui il est. De dire, Jésus, viens, surprends-moi à nouveau. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chrétiens depuis X années ici ? partout dans ce lieu, et vous savez quoi? C'est le moment, c'est l'opportunité à nouveau d'ouvrir le cadeau que Jésus nous a fait pour être surpris par lui. Et j'invite juste les musiciens à venir à vous mettre au piano à l'arrière, si tu veux bien. Et je termine avec ce passage. Et Dieu qui nous dit, mais la prochaine diapo, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Christ nous a rendu la vie, et c'est par grâce, c'est par son amour que nous sommes sauvés. Il y a cette dimension dans ce passage qui est extrêmement touchante, qui dit que Dieu est rempli et bon, il est plein de miséricorde. Et ce passage dit également, on était comme mort, mort dans notre âme, mort dans ma relation avec Dieu, mort au divin, mort à toute espérance, à tout espoir. Mais Dieu, qui nous aime tellement, qui est tellement riche en miséricorde, tellement il ne veut pas il ne veut pas que tu aies cette vie là sans lui. Il est venu par le Christ et c'est par amour qu'il nous ouvre le ciel. Et je vous invite simplement à fermer les yeux ici, maintenant. Et avant qu'on reparte dans le tourbillon de Noël, de l'apéro et de plein de choses, est-ce qu'on peut juste se donner quelques secondes? Jésus, merci pour ton cadeau. Merci pour ton amour, merci pour ta joie, merci pour ta paix. Seigneur, je te prie pour moi, je te prie pour tous ceux qui sont ici. Nous voulons partager ta joie et nous voulons retrouver peut-être cette paix intérieure que nous avons perdue, cette paix intérieure peut-être qui nous a échappé. Saint-Esprit, je te prie, est-ce que tu peux venir ici maintenant ? Apporter guérison, consolation à tous les cœurs qui ont besoin. Et peut-être c'est toi ce matin, tu dis oui, c'est moi, j'ai mon cœur qui a été meurtri par le passé, par toutes sortes de situations. Je ne connais pas ton histoire, je ne connais pas ta vie, mais je sais et je connais celui qui peut tout. Je suis celui qui peut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Alléluia. Je vous invite juste encore quelques secondes à fermer vos yeux. Saint-Esprit, viens s'il te plaît. Viens s'il te plaît. Plus.